Ma come on activity, on activity, on activity.
Comprends ce petit quand tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, en plus jamais la loi des drames. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. Tu attends qu'une chose s'éclaire, nous perdre son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait tabasser.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tchékars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ, à Bénoir, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit ont dû s'échapper de la prison.
Je dois m'évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour et bienvenue sur Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre toutes les formes d'enfermement. C'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Kaleidoscope 97FM. Et vous pouvez également retrouver les émissions sur le blog lesmursontdesoreilles.noblogs.org. Et alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisque c'est l'émission de nos 10 ans. Ça fait 10 ans que Les Murs ont des oreilles existent.
Oui !
Voilà, et du coup, alors on a invité des personnes qui étaient là au tout début de cette émission qui vont un peu nous parler de comment ça s'est passé au début et puis un peu comment ça a évolué l'émission et en général l'univers carcéral depuis ces 10 ans. Du coup, on va prendre un peu de temps pour parler de ça en début d'émission et puis ensuite, on va continuer les choses habituelles. Donner un peu des nouvelles des gens avec qui on est en contact, et puis des brèves et tout ça. Et du coup, on va écouter plusieurs morceaux de musique et on va donner des nouvelles de Kaoutar, donner des nouvelles également des inculpés, des mutins de Châteaudun, des nouvelles aussi de Laurent, et aussi on va vous, vous faire des petites chroniques littéraires. Voilà pour le sommaire de cette émission. Et alors, on commence tout de suite
par les 10 ans de Les Murs ont des oreilles. Donc, en fait, quand on a essayé de réfléchir un peu de ce qu'on pouvait en dire de ces 10 ans d'émission, on en est venu, en fait, à réfléchir aux raisons qui nous ont poussé à créer cette émission donc, en 2003. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'elle s'inscrivait dans une historicité bien, bien spécifique et que c'était cette histoire-là qu'on avait envie de témoigner. Et du coup, en y réfléchissant, on a un peu vu deux points qui ressortaient principalement de ce bazar. Donc, au début des années 2000, il y avait un contexte où les contre-sommets deviennent des moments marquants de la contestation, À partir de Seattle, en 99, les réunions du G8 ou du G20, de l'OMC, donc Organisation Mondiale du Commerce, du FMI, Fonds Monétaire International, les sommets européens ou encore Davos, deviennent des grands rendez-vous militants. Et c'est aussi à cette période, au début des années 2000, que s'organisent des grands rassemblements internationaux militants, tels que l'AMP, qui est l'Action Mondiale des Peuples, ou les No Border Camp. C'est des temps forts comme Prague ou Nice en 2000, Gênes en 2001, Évian en 2003, mais aussi le No Border Camp de Strasbourg en 2002, au cours desquels en fait ont eu lieu de fortes violences policières qui ont impliqué du coup l'organisation de collectifs anti-répression et ont nourri des réflexions anticarcérales, ce qui a réintroduit finalement la question de la prison au centre de la critique sociale et au centre de l'analyse de la société capitaliste. Et l'autre point, en fait, qu'on s'est rendu compte assez marquant, c'est qu'après le 11 septembre 2001, après les attentats, il y a eu une multiplication des lois sécuritaires, qui notamment est tombée au moment de l'arrivée du gouvernement Raffarin, donc avec notamment le trio gagnant, puisqu'il y avait Père Ben, qui était garde des Sceaux de 2002 à 2005, Bédier, qui était secrétaire chargé des programmes immobiliers de la justice de 2002 à 2004, et Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur de 2002 à 2004. Et donc, du coup, on avait là un bon terreau d'initiatives, de lois et de luttes contre la dite délinquance assez prolifiques. Du coup, je ne sais pas si tu veux parler des...
Oui, effectivement, je reviens après 10 ans. Et c'est peut-être, bon, je reviens pour ces 10 ans, bon, peut-être pour un triste anniversaire, j'aurais préféré ne pas revenir en me disant que les tôles n'existaient plus, mais bon, je crois que ça sera dans 10 ans, je pourrais revenir encore peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 10 ans ont vu, certainement c'est aussi l'anniversaire de 10 années de renforcement du sécuritaire, de renforcement de la politique du tout carcéral. Donc comme ça vient d'être dit, 2002, donc c'est l'élection de Chirac, un nouveau gouvernement. Bon, faut rappeler peut-être que c'était Le Pen au deuxième tour. Alors le contexte était donc extrêmement favorable au renforcement de politiques extrêmement répressives. Et ça a commencé, donc je crois que l'élection, ça devait être en mai. Et dès août, il y a eu la promulgation d'une première loi, dite l'OPSI, hein, pour orientation et programmation pour la sécurité intérieure, qui, alors c'était une loi qui était très administrative pour organiser les services, et ça donnait notamment autorité du ministre de l'Intérieur, qui était Sarkozy à l'époque, sur à la fois la police nationale traditionnellement, mais aussi sur la gendarmerie nationale, avait bien entendu l'objectif d'harmoniser tout ça et de rendre encore plus efficace la répression policière. Et accompagné de ceci, la fusion des fichiers de police nationale et de gendarmerie. Donc ça, c'est fin août 2002, et dès septembre sort la première loi Père Ben, hein, loi Père Ben 1, qui est une loi importante puisqu'elle laisse des traces jusqu'à maintenant. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans, mais on y retrouve dans cette loi différentes choses qui touchent notamment tout ce qui est autour des mineurs, avec la création des établissements pénitentiaires pour mineurs. Et donc ce sont des établissements qui se voulaient comme des alternatives aux quartiers de mineurs dans les tôles. Ça se voulait comme des établissements vraiment dédiés à l'incarcération des mineurs, avec tout un discours prétexte à une éducation, à des conditions qui ne seraient pas les mêmes que dans les tôles. Mais c'est tout de même la création de tôles pour les mineurs. En parallèle, oui.
Ouais, non, par rapport aux mineurs, je ne sais pas si tu voulais compléter sur d'autres aspects, sur les mineurs ou.
Il y avait effectivement, il y a au moins aussi des aspects de garde à vue qui sont renforcés sur les enfants, puisque il y avait la possibilité
de maintenir en garde à vue.
De maintenir en garde à vue les enfants de 10 à 12 ans pour 12 heures consécutives.
Il y avait aussi l'abaissement du coup de la responsabilité pénale à l'âge de 10 ans et la possibilité d'incarcérer les mineurs à partir de l'âge de 13 ans. Plus, tu as parlé des EPM, des établissements pénitentiaires pour mineurs, mais c'est aussi la création des CEF, c'est-à-dire des centres éducatifs fermés, qui est vu comme une antichambre pour l'incarcération des mineurs. Et qui est du coup une soi-disant perçue comme un outil préventif à l'incarcération, sauf que c'est déjà une forme d'enfermement puisque les enfants sont quand même pas libres de leur mouvement et dans un dans une logique ultra occupationnelle des jeunes dits du coup délinquants. Voilà, je vais juste rajouter.
Tout à fait, effectivement, donc CCEF, je crois qu'il y a eu encore, donc on fait polémique dès leur origine, on en parle encore maintenant, il y a eu, je crois que c'est le contrôleur général des prisons qui vient d'en faire à la fois l'éloge en disant que c'était quand même une bonne solution, mais qu'il y avait des problèmes, etc. De toute façon, ça a toujours posé des problèmes. Ils n'ont, de toute façon, c'est une sorte d'aberration de vouloir concilier dans un espace fermé l'enfermement d'essayer donc de croire à un projet quelconque dans un espace enfermé. De toute façon, ça me paraît être une sorte d'aberration. Et faut voir que dans cette loi Perben 1, au-delà de tous ces aspects concernant les mineurs extrêmement durs, on va vers l'extension de la comparution immédiate qui concernait des délits passibles de 6 mois à 10 ans. Et donc, avec ça, c'est finalement affaiblir les droits de la défense, la possibilité de construire lors de mise en accusation, de construire des dossiers de défense qui soient solides, et c'est généralisé, donc la pression mise sur les personnes arrêtées pour qu'elles soient mises devant un juge le plus rapidement possible, et donc que ça aille derrière avec des peines qui s'alourdissent. Alors ça, c'était en septembre 2002, et deux ans plus tard, en mars 2004, on arrive avec la deuxième loi, la loi Perben 2, qui, elle, se veut comme une loi pour lutter contre la délinquance et la criminalité organisée. Et il y a plusieurs dispositifs. Hein. C'est des dispositifs qui vont, soi-disant, vers le grand crime organisé. Mais bon, déjà, faut savoir définir ce que c'est le crime organisé. Donc on pourra y mettre un peu tout ce qu'on veut. Et ça rassemble donc, sous le crime organisé, différentes formes. Qu'il est possible maintenant de réprimer avec un attirail renforcé qui rejoint l'attirail utilisé jusqu'alors pour le terrorisme, excusez-moi. C'est pas obligatoirement...
C'est un lapsus magnifique que tu viens de nous faire.
Et donc, en tout cas, pour le terrorisme, on y retrouve des choses comme autoriser les flics à poser des dispositifs d'écoute dans les véhicules et les domiciles à l'insu de leurs propriétaires sans avoir à en justifier les motifs. Ça légalise les missions d'infiltration, ça légalise la pratique des indics qui sont dorénavant rétribués de manière très officielle. Ça crée donc un régime spécial de traitement de tout ce qui est qualifié de crime organisé ou de délinquance organisée. Donc on y retrouve tout ce qu'on veut, hein, et met tout ça sous le même régime, donc je l'ai déjà dit, spécial du terrorisme. Ça prolonge la garde à vue à 96 heures et autorise cette prolongation de garde à vue pour les mineurs de plus de 16 ans. Ça crée un mandat de recherche qui permet d'arrêter sur simple suspicion une personne dont on soupçonne qu'elle aurait peut-être un jour tenté de commettre, certainement, pourquoi pas, un crime ou un délit qui serait puni d'une peine supérieure à 3 ans, donc grosso modo d'arrêter un peu qui on veut et de le mettre en garde à vue. Et ça généralise l'utilisation des fichiers informatiques à travers la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et ça modifie, selon certaines modalités qui vont vers une meilleure efficacité de ces fichiers, le fichier des personnes recherchées. Et donc c'est cet ensemble en fait extrêmement répressif et qui va permettre donc d'exercer des lois vraiment, donc, comment dire, une politique de plus en plus répressive va conduire à une très forte augmentation des personnes incarcérées, puisque je ne sais pas si tu souhaites en parler, mais il y a eu plus de 10 000 personnes à partir de 2001-2002. Hein, le point bas était en 2001, 48 000 personnes incarcérées, et c'est monté en 2006, il y avait presque 60 000 personnes incarcérées, c'est-à-dire 20% d'augmentation, donc une montée très brutale suite à ces différentes lois.
Oui, et en parallèle, et justement... Alors, dans ce contexte-là, en plus des lois, en parallèle des lois, c'est aussi une période où il y a des constructions de nouvelles prisons. Donc, en fait, il y a deux programmes qui se superposent, c'est-à-dire qu'il y a le programme 4000, donc 4000 nouvelles places, qui a été décidé en 96, mais dont l'ouverture des tôles, en fait, a lieu entre 2002 et 2004. Donc, du coup... c'est à cette période-là que 6 nouvelles prisons s'ouvrent sur un programme du coup de construction précédent. Et que dans la même période, il y a le programme des 13 200 places, qui est donc décidé en 2002, pour des prisons donc, qui ont commencé à s'ouvrir à partir de 2009, avec notamment le premier, ça a été le centre de détention de Rouen. Et donc c'est toute la vague des tôles qui s'ouvre depuis 2009. Donc en fait, c'est cette construction de 13 200 places est issue de la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Et elle a pour conséquence, donc du coup, c'est la planification concrète des EPM, de la construction des EPM, dont on a parlé précédemment, qui sont du coup résultent de la loi Perben 1. C'est l'instauration des partenariats de construction publique-privée, c'est-à-dire la mise en place de fonctionnements où c'est des sociétés privées, des grosses sociétés privées qui construisent les prisons et qui les mettent en location auprès de l'État et où l'État du coup paye un loyer sur ces prisons sur une vingtaine d'années. Elle en viendra propriétaire au bout de 20 ans. Sauf que du coup, elle aura payé, je ne sais plus combien, il me semble que c'est 8 fois plus cher, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, elle, finalement, l'État déversera beaucoup plus d'argent que ce que la prison aura coûté en soi, mais du coup, ça sera sur du long terme, et du coup, on a vachement l'impression que ça fait moins d'argent sorti d'un seul coup, sachant que ces ouvertures-là, enfin ces constructions-là, ont aussi amené des très mauvaises surprises sur les ouvertures, puisqu'il y avait beaucoup d'histoires de malfaçons, enfin il y a eu beaucoup d'anecdotes comme ça, de murs qui se cassaient la figure tout seul, de choses comme ça, enfin ça avait beaucoup nourri à un moment donné les médias. Et donc aussi ce programme des 13 200 places, c'est donc plein de nouvelles prisons qui sont censées être plus humaines, puisque c'est le moment de dire on va en fait par ce programme fermer des prisons qui datent du 19e, on pense aux prisons aux trois prisons de Lyon, on pense à voilà un certain nombre de prisons comme ça qui datent réellement en effet d'une autre époque. Mais en fait, la réalité, et c'est quand même ce qu'en témoignent maintenant les prisonniers, c'est que c'est loin d'être des prisons plus humaines. Au-delà de la question, c'est les prisons, mais même au niveau de ce qu'elles sont et de ce que c'est d'y être enfermé, il n'y a pas réellement une amélioration de ressenti, mais elles sont surtout en fait plus sécurisées. Et quand on lisait cette fameuse loi d'orientation et de programmation de la justice, c'était quand même beaucoup plus la question de la sécurité et l'aspect sécuritaire des prisons qui était mis en avant que l'aspect humain. Donc c'est voilà tout un ensemble de dispositifs de contrôle des flux, de ne pas se croiser, et dont en fait dans ces prisons-là, il y a les deux centrales ultra sécurisées qui dont pareil la première ultra centrale a été inaugurée il y a pas longtemps et dans laquelle Christophe Kieder, dont on avait parlé le mois dernier, a été enfermé. Cette période-là aussi, c'est c'était une période très faste, hein, on s'ennuyait pas. C'est la création des ERIS en février 2003, donc c'est équipe régionale d'intervention et de sécurité, donc c'est l'arrivée de ces groupuscules de matons cagoulés qui viennent faire la loi, soi-disant, du coup, gérer les situations de crise, comme ils aiment appeler ça, et qui se sont très rapidement, ça n'a surpris personne d'ailleurs, qui se sont illustrés par des interventions extrêmement violentes, dont on se rappelle de André Alex et Cyril Bastard, qui s'étaient fait littéralement dérouiller à l'époque lors d'une intervention des ERIS, et dont il y avait eu notamment un rapport de la CNDS, qui n'existe plus, donc Commission nationale de déontologie et de sécurité, qui avait pointé du doigt les violences faites par ces matons cachés derrière une cagoule, parce que c'est connu, souvent ça donne beaucoup plus de courage. Et puis, cette période-là aussi, c'est la généralisation des quartiers d'isolement. C'est-à-dire, il y avait eu donc les quartiers de haute sécurité qui avaient été fermés dans les années 80 et début 2000, c'est à nouveau cette habitude de mettre des prisonniers considérés comme dangereux, donc les j'ai un trou de mémoire.
Les DPS.
Merci, les DPS, d'être voilà à nouveau mis dans des quartiers organisés à l'isolement avec des traitements particuliers, du coup, hors de la détention dite normale. Et donc voilà un peu en gros, ça fait un espèce de gros pêle-mêle de tout ce qu'il y avait à cette époque-là, mais c'est dans cette espèce de climat général très sécuritaire. En fait, je pense qu'il est toujours aussi sécuritaire, sauf que maintenant, c'est devenu quelque chose de peut-être plus habituel. Et que, en fait, à ce moment-là, il y a quand même quelque chose de. Pour nous, on avait vraiment senti avec le recul qu'il y a quelque chose de charnière qui s'est joué à ce moment-là. Et que, du coup, ça a un peu amené une dynamique autour du carcéral, la création, du coup, d'un certain nombre d'émissions de radio, un peu partout en France, mais pas seulement, dont, du coup, la nôtre, mais il y en avait d'autres à ce moment-là. Des volontés de s'organiser collectivement, des volontés d'essayer d'échanger aussi, du coup, sur, en termes de réflexion, en termes de ce qu'on pouvait produire, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait avoir envie de faire. Et du coup, voilà, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est lancé dans cette aventure qui, c'est plutôt chouette, mais à continuer. Et ça, c'est bien. C'est pas souvent qu'une émission peut durer aussi longtemps.
Mais aussi, moi, ce que j'allais dire, c'est que là, vous avez parlé un peu du contexte répressif, mais qu'il y avait aussi un contexte de lutte. J'imagine que si cette émission elle s'est lancée, comme tu l'as dit, c'est aussi parce qu'il y avait des dynamiques autour de ça. Et moi, je veux dire, à l'époque, j'étais pas trop impliqué dans les luttes, mais je sais que par exemple, autour de tout ce truc d'ouvrir des EPM, il y a eu un fond des luttes contre l'ouverture des EPM. Je me rappelle qu'à des moments, il y a eu aussi des occupations de chantier Bouygues pour critiquer l'implication de Bouygues dans le plan 3000. Mmh. Et qu'il y a eu peut-être des coordinations aussi de groupes anticarcéraux. Enfin, que là, vous avez donné le truc un peu plombant, là, mais qu'il y avait quand même aussi des dynamiques.
En fait, les deux choses que tu as données, les deux exemples que tu as donnés, c'est deux choses qui prennent en sandwich cette période-là, en fait. Parce que les occupations de chantier ou les sabotages qu'il y a pu y avoir, c'est du coup, justement, comme tu disais, c'est sur le plan 4000, donc ça s'est fait vraiment avant 2000. C'est voilà, fin 90, c'est quand les chantiers se mettent en place, qu'il y a une dynamique qui se fait autour de ça, qui est beaucoup témoignée dans le livre Au pied du mur, dans lequel il y a des témoignages autour de ces luttes-là. Et les luttes contre les constructions d'EPM, ça arrive après, parce que du coup, entre le moment où la loi est votée et la construction, en fait, c'est tout de suite après. À ce moment-là, précisément, c'était surtout les CEF, parce que les CEF, ça a été une logique très, très, très... pas très compliqué pour la PJJ, la production judiciaire de la jeunesse, puisque c'était on prend un foyer ouvert, puisque la PJJ c'est aussi des foyers ouverts pour adolescents, on prend un foyer ouvert, on le vide, on le sécurise, on en fait un CEF. Et c'est aussi pour ça que par exemple les éducateurs PJJ peuvent se mettre facilement en mouvement, enfin en tout cas dénoncer les CEF, parce que ça a toujours, enfin il y a une critique de l'enfermement, en tout cas de la pénalisation et de la répression des mineurs au détriment de la prévention. On peut avoir une discussion là-dessus, mais c'est encore un autre point. Mais c'est aussi que ça se faisait au détriment de foyers ouverts et que ça leur posait problème. Donc ça, c'était pas compliqué à mettre en place. Donc ça a été mis en place immédiatement. N'importe comment, de toute façon on n'en attendait pas moins de leur part, alors que les EPM, voilà, c'était, il fallait un temps d'appel d'offres, de machin, d'organisation, ce qui fait que la lutte concrète contre les EPM est arrivée peu de temps après, mais arrivée un petit peu après en fait. Mais c'est toute cette dynamique là et ce foisonnement là et c'est aussi parce qu'il y a une dynamique contre les CEF qu'il y a pu y avoir après une dynamique nourrir une dynamique contre les EPM. Donc en fait c'est vrai que de toute façon tout s'allie, tout s'échange, et c'est aussi voilà parce qu'il y a d'autres choses qui ont existé que ça donne envie de faire aussi des choses. Donc c'est vrai que c'est tout s'alimente comme tu le dis.
Et aussi un des trucs dont on n'a pas parlé là, c'est aussi c'est à cette époque-là ce qu'on disait avant l'émission qu'il y a eu aussi tout un truc autour des centres de rétention et que là aussi centres de rétention, il y a eu quand même un fort mouvement contre les centres de rétention et au sein des centres de rétention. C'est peut-être pas la peine qu'on s'étende dessus, mais juste pour dire comment les choses s'alimentent, il y a eu aussi un moment, tout un mouvement autour
de ça. De toute manière, en fait, c'est vraiment cette idée que la rétention, les centres de rétention, c'est aussi un enfermement. Et qu'en fait, c'est inévitable de rallier les deux ensemble. Mmh. Et que ça serait même une erreur, même intellectuellement parlant, enfin même si j'aime pas cette manière de dire, mais de mettre ça à part en fait comme une lutte qui serait à part, enfin juste, c'est pas ça, les gens n'arrivent pas pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions et dans les mêmes lieux à être enfermés, mais ça reste une gestion étatique par l'enfermement et que du coup c'est forcément en lien. Et
oui, c'est vrai que cette notion d'enfermement est importante puisque bon, je pense que sans, en revenant encore un peu plus loin. au tout début des années 80, donc il y a eu autour de la politique psychiatrique, etc. Notamment, il y a eu pas mal de réflexions pour ouvrir les asiles, et on voit bien que à travers les derniers chiffres ou ce qu'on peut entendre, hein, sans obligatoirement être un grand militant et suivre ça de très près, qu'on enferme de plus en plus de personnes qui n'ont rien à faire en tôle. Et donc on a de nouveau, alors d'une part on a une réponse sociale qui est par l'enfermement, et en plus maintenant c'est un enfermement systématiquement dans les tôles. Alors après, un asile c'est pas mieux qu'une tôle, etc. Mais dans tous les cas, la réponse est très claire vers l'enfermement le plus dur possible. Et je crois que ça, c'est important, c'était présent dans l'émission il y a 10 ans, c'est encore présent maintenant. Ça renvoie à des luttes où il y a 30, 40 ans, il y avait un enfermement très dur. Il y avait des liens extérieurs-intérieurs qui étaient faits entre les prisonniers et les gens à l'extérieur qui les soutenaient. Je crois qu'à travers l'émission, c'était aussi ça qu'on voulait essayer d'avoir. C'était recréer ce lien intérieur-extérieur, essayer de recréer des conditions à une lutte hors de la prison. Parce que hors de la prison, c'est là que se construisent les conditions qui font que la prison existe, dans les prisons, parce que c'est aussi les gens des prisons qui doivent
nourrir.
C'est elles qui sont concernées d'abord par la prison, et donc qui, bon, et c'était un peu aussi toutes ces idées là qui sont je pense encore présentes et qui sont fondamentales, je pense, pour tout autour de tout ce qui se passe autour des prisons.
Et je pense, comme tu parlais des années 80, et c'est vrai que je pense que ce qui était dur, et je pense qu'il est dur encore aujourd'hui, c'est que dans les années 80, justement, beaucoup de choses venaient de l'intérieur, et que finalement, il était plus aisé de se porter relais de dynamique vraiment de l'intérieur, que actuellement, il n'y a pas de lutte, enfin, il n'y a pas beaucoup de lutte collective à l'intérieur, en tout cas pas de lutte collective organisée et mise en réseau. Et que du coup, c'est à l'extérieur de s'organiser face à ça et parler de la prison sans prendre la place de. C'est un exercice qui est pas simple, mais qui en même temps est hyper important. Donc ça passe aussi, voilà, par les courriers, par des échanges, par des journaux. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont moins aisées, je pense, que dans les années 80 à organiser ou à articuler, en tout cas.
Ben voilà, c'était un espèce de panorama en 10 minutes de 10 années.
De 10 années.
Du coup, on va écouter un petit morceau de musique avant de passer à la suite. Et alors, le morceau qu'on va écouter, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Las Cuerdas Cubensi, qui s'appelle Liberación et qui appelle à la libération de toutes.
Formo mi propio foco y no necesito de ti, machismo, y me libero de ti, esclavismo. Y visto pantalones y parto tarimas, y hablo con amor de todas las mismas. Sientes rechazo, sientes flechazo.
Liberación para todas las exiliadas de la
las hermanas que han estado, están y estarán encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera, prisionera, Danaí Crudas, esta carga entera.
Liberación para todas las exiliadas de la
con qué derecho daña a la derechos, por una mejor sociedad. Ellas nos enseñan a amar, amarnos a nosotras mismas, a respetar la vida en nosotras, a perpetuarla, vaya la crueldad absoluta del sistema legal. Ellas se pudren en una celda, alambres que se cruzan y se descruzan. Algún centinela químico dormido o hiperactivo, artritis de circuitos mentales, el destino levantando su fea cabeza, confinamientos solitarios por su justeza, emancipación para las mujeres maltratadas, jodidas, gozadas, oprimidas, las encarceladas de todas las naciones, las excluidas por los patrones, las tempestuosas, las conflictivas, las religiosas, nuestras princesas relucientemente negras, nuestras heroínas libertarias, para que guerrillera la revolucionaria, requien por su alma, balón por su espíritu, estos cuerpos las encarnan, asada, bandera negra perseguida, luchas por tu gente y piden tu vida, maestra Najanda, censura a quien te manda, quien se atreve sabe, libertad para las pacíficas, libertad para las justas políticas, no más reja, no más condena, liberaciones verdes, rojas, amarillas, libertad sin cadena, libertad con semillas, libertad.